Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, 13h-14h, Jacques Pessis.
Plastique Bertrand, ça plane toujours pour lui, même s'il se fait particulièrement rare dans les médias. Il revient avec un nouvel album. Mais au fait, a-t-il vraiment chanté sur son premier 45 tours? Sa réponse est oui. Et savez-vous combien de concerts il donne encore chaque année? 150 en France et dans le monde entier. Des souvenirs parmi beaucoup d'autres que vous allez découvrir tout de suite dans ces clés d'une vie.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Bonjour Plastique Bertrand.
Bonjour Jacques.
Des années qu'on ne vous a pas entendu et vous revenez aujourd'hui.
Oui, enfin on n'a pas entendu, ça dépend si on est très urbain ou pas. Quoi.
Voilà.
Non, c'est vrai que moi j'ai une carrière un peu, j'ai eu la chance, et que ça plane pour moi, de développer une carrière internationale, et ce qui m'a permis de, quand je ne suis pas en France, je travaille, mais ailleurs. Quoi.
Voilà, on va en parler justement, il y a ce nouvel album, L'Expérience Humaine, dont on écoutera des extraits tout à l'heure, mais le principe de l'émission, c'est de revenir à travers des dates clés sur votre parcours. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 16 mars 1977, une émission qui s'appelle Le Rock et le Punk, où il y a un orchestre, une formation, Hubble Bubble, qui joue ce morceau. C'est le Rocking Club avec Roger Jouret, c'est-à-dire vous.
Roger Junior. Oui. Parce que j'ai toujours été fasciné par le changement de nom des stars.
Oui.
Et c'est ça qui me plaisait dans ce métier quand j'ai démarré, c'est de pouvoir changer de personnalité. Et là, c'est ma voix, c'est moi qui joue la batterie. Et c'était mon groupe qui s'appelait Hubble Bubble. Et c'est vraiment le début de ma carrière vraiment professionnelle.
Oui, c'est votre première télé. Et on voit d'ailleurs avec, sur la pochette, allongé avec deux musiciens au-dessus de vous.
Oui, c'est ça, c'est un trio de musique punk avec Alain Bureau et Daniel Massard, qui sont deux magnifiques musiciens. Et c'était vraiment le début des choses très sérieuses, parce qu'on a enregistré un premier album chez Barclay, et puis c'est sorti chez Warner après. Et c'était vraiment une ambiance de fou. C'est vraiment enfin un album professionnel, et on en a bavé pour arriver là.
Oui, parce qu'au départ, votre premier groupe, c'était le Bison Scout Band, chez les Scouts, je crois.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chez les Scouts, il y avait Boom le samedi soir, et il fallait bien un orchestre. Il n'y avait pas de DJ à l'époque, c'était pas encore à la mode. Et donc, on montait des groupes et on faisait des covers de tout ce qui fonctionnait à la radio. Et j'étais batteur et chanteur dans ce groupe.
Et je crois que dans ce premier groupe, vous chantiez les titres des Rolling Stones.
Ah ouais, c'était ma grande passion, ça. Les Stones, c'est les Who, c'est deux grands groupes qui m'ont donné cette énergie et l'envie de faire faire de la musique et surtout d'avoir cette énergie, quoi.
Alors, Mick Jagger, il faut savoir qu'avant d'être musicien, il était gymnaste prometteur. Il a failli faire des compétitions, et ce qui explique sa forme aujourd'hui. Et la musique lui a empêché d'aller sur les stades.
C'est un peu comme moi, quoi.
Exactement. Alors, il y a eu aussi un autre groupe qui s'appelait les Pélicans.
Ah oui, je commence à être adolescent, et là ça commence à être vachement bien, parce que les batteurs, c'est toujours un peu les préférés des minettes qui viennent voir les musiciens dans les booms encore. Et là ça me permet de passer une adolescence tout à fait géniale, parce que ça marchait très très bien avec les filles, donc j'étais vraiment content d'être batteur dans un petit groupe et de pouvoir draguer cool à mon aise.
Oui, alors c'était à Bruxelles, bien sûr. Ouais. Et ensuite, il y a eu, je crois, des festivals sur la côte belge avec un autre groupe qui s'appelait Passing the Time.
Alors ça, c'est presque professionnel. Et ça, on joue pour une radio pirate qui s'appelle Radio Véronica, qui organise des concerts sur la côte belge. Et là, ça commence à être sérieux, parce qu'on joue vraiment dans des festivals, dans des gros... Ça commence à être des gros concerts. Et de plus en plus, on s'affirme et on ne se cherche plus. Là, on fait de la musique.
Alors, il faut savoir que les radios pirates en France, on en parle à partir de 81, mais en Belgique, ça existait de 78 à 81. Il y avait une association pour la libération des ondes, et bon, il y avait un monopole, mais finalement, il n'y avait pas d'amende, il n'y avait pas d'interdiction. Le gouvernement était très très cool avec ça.
Oui, c'était très laxiste, mais faut dire que les jeunes n'intéressaient pas beaucoup le gouvernement. Il faut dire que c'était un gouvernement qui s'intéressait au bien-être des personnes âgées, des gens qui votaient. Donc, des petites radios qui s'intéressaient aux gamins de 12-13 ans, ça les intéressait pas du tout, donc il laissait aller.
Alors, votre histoire commence à Bruxelles avec des parents qui se sont rencontrés de façon étonnante, Plastique Bertrand, dans un camp de concentration.
C'est de la folie, parce que ils avaient rien à faire, il y a rien qui leur promettait de se rencontrer un jour. Et là, tout d'un coup, ma maman ukrainienne se fait rafler par les Allemands en 42. Ouais. Mon père déjà prisonnier en Allemagne, et surtout dans deux camps situés l'un à côté de l'autre. Et coup de foudre. Ils se croisent en allant travailler,
en faisant des services. Oui,
en faisant des services, c'est ça. Et c'est le coup de foudre, mais inimaginable. Mon papa était déjà marié en Belgique avant de partir à la guerre, mais rien n'y fait. C'est l'amour total. Et trois jours avant la libération, ils décident de partir. Ils piquent un vélo. C'est un peu désorganisé. Ils peuvent piquer un vélo et s'installent à Bruxelles complètement par hasard, parce que mon père était natif de Strasbourg.
Alors, vous avez quand même des frères et sœurs que votre mère va élever.
Oui, j'ai une demi-sœur, en fait, hein, oui, qui était déjà là. Et puis, moi, je suis le petit dernier. Avant moi, il y a une sœur, un frère, une sœur. Donc, je suis le dernier d'une fratrie de cinq.
Et un frère avec qui vous faites de la musique. Et je crois que votre première idole, Plastic Bertrand, c'est Claude François.
Ah non, mais c'est pas mon idole à moi. L'idole, c'est l'idole de la famille.
Voilà.
C'est carrément une secte. C'est la secte Claude François. Et moi, je suis, étant le petit dernier, je ne suis pas en dehors de la secte. Je suis obligé de m'intégrer au groupe qui fait des reprises de Claude François. Le rêve de mon frère, c'était de chanter du Claude François. Et moi, je commence à retourner un tabouret, à accrocher des tambourins, et je commence à l'accompagner. Comme ça, c'est comme ça que ça a démarré toute l'histoire. Mais c'était pas moi qui étais fan, c'était mes sœurs surtout. Et d'ailleurs, le premier concert que j'ai vu dans ma vie, c'était Claude François à l'ancienne Belgique, quoi. Ils m'ont tiré de force, mais j'étais quand même ébloui, quoi. J'étais quand même complètement sur le cul de voir un mec avec des éclairages comme ça, des danseuses à l'américaine, quoi. Et ça m'a vraiment donné encore plus envie de faire ce métier.
Oui, d'ailleurs, les lumières, tout ce qu'il faisait, je suis sûr que ça vous a inspiré. C'est-à-dire que quelquefois, il chantait, la foule criait tellement qu'il insultait ses musiciens en chantant.
Oui,
et personne ne s'en rendait compte.
Non, c'est ça, en fait, des répétés en même temps. Quoi. Regarde, plus vite, et puis ça partait comme ça. Mais il y avait une telle énergie. Et je crois que ma façon de parler, ma façon aussi d'être très speed comme ça, il en reste quelque chose, ce truc, Claude François.
Alors, vous parlez de vos premiers instruments de musique. Je crois que les mini-tambours, c'était avec des boîtes en carton, Plastic Bertrand.
Oui, c'était un tabouret. C'était les premiers tambourins, quoi. Ouais. Des tambourins qu'on accrochait sur les pieds d'un tabouret. Et puis, très vite, ça a été une batterie. C'était génial parce que mes parents, qui n'avaient pas beaucoup de sous, leur a posé aucun problème d'épargner et de m'offrir une première batterie, alors qu'il n'y avait pas de sous à la maison. Et mes frères et sœurs n'étaient pas du tout jaloux. Je sais pas, il y avait un espèce de... On savait que j'allais être musicien, on le sentait, et personne s'est mis à travers ma route.
Oui, on savait aussi que les études, ce serait pas ça, parce que je crois que les 5 années de lycée, c'est votre cauchemar, Plastic Bertrand.
J'étais pas si mauvais que ça, hein. Mais par contre, tout le monde me voit comme un élève chahuteur et tout. Non, j'étais plutôt appliqué. Pourquoi j'étais appliqué? Parce que j'allais dans de très très bons lycées. Et alors qu'on n'avait pas les moyens, c'est presque des lycées privés où il fallait vraiment payer. Mais j'avais quand même reçu une bourse d'études, donc j'avais un devoir absolument d'être, entre guillemets, le meilleur, quoi. Et j'ai donc travaillé beaucoup, même si ça ne me plaisait pas. J'étais un bosseur, j'étais un élève qui travaillait, quoi.
Oui, mais il y avait la tenue. Cravate, chemise blanche, coupe au carré, c'est pas votre truc.
Ah non, pas du tout, c'est pour ça que je dénotais. Moi, je me souviens toujours, un jour, à l'Athénée Adolphe Max, parce qu'après l'école primaire, c'est l'Athénée, je me souviens très très bien d'une scène où les 800 élèves sont convoqués dans le préau de l'Athénée, et le préfet de l'Athénée me sort du rang et me dit... vous, espèce d'Oscar Wilde, parce que j'avais une grosse mèche de cheveux comme ça qui me cachait les yeux, sortez du rang, vous n'avez rien à faire ici. Et c'était incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que le fait qu'il m'ait dit Oscar Wilde, puis ça m'a ouvert finalement un univers incroyable. Je me suis mis à lire Oscar Wilde. Et je me dis, mais finalement, ils ne se rendent pas compte, ce crétin, le bonheur qu'il m'a fait, quoi.
Alors, ensuite, il y a eu le conservatoire. Et le conservatoire où vous êtes entré, ça a été dur parce que vos parents ne voulaient pas, Plastic Bertrand.
Ils ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient que, bon, ils ne sont jamais imposés, m'ont jamais imposé quoi que ce soit, et ils m'ont jamais interdit de faire de la musique. Mais quand même, faire des études et faire de ça mon métier, ça, c'est quand même un autre truc. Et en plus, j'étais trop jeune pour être au conservatoire, parce que j'ai fait d'abord l'Académie de musique, et entre les deux, j'ai fait une année à Saint-Luc, des études de design, parce que j'étais très, 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 très intéressé par le design, par l'art contemporain déjà. Et quand je suis rentré au conservatoire, c'est vrai que mes parents me disent « Est-ce que c'est vraiment raisonnable qu'ils fassent que ça, quoi ?» Mais c'était jamais niet, quoi.
Ouais. Et vous avez été renvoyé à la fin de la deuxième année, Plastic Bertrand ?
J'étais plus ou moins renvoyé parce qu'en fait, j'avais besoin de fric parce que j'étais en train de monter des groupes en même temps. Et j'avais trouvé un job, et ça c'était génial, le soir comme régisseur dans un grand théâtre à Bruxelles qui s'appelle le Théâtre des Galeries. Et j'étais régisseur dans ce théâtre, donc c'était parfait parce que la journée, j'allais, je faisais des études au conservatoire. Le soir, j'étais au théâtre. Je levais le rideau, mais pour des trucs incroyables. Je me souviens des tournées Carsanti qui passaient par le théâtre des Galeries. Et je levais le rideau, je levais le torchon, comme on dit. Et surtout, on accueillait des artistes comme, je sais pas, Jean Marais, Jean Le Poulain. Et je devais les noter. Et moi, du haut de mes 20 ans, je notais des immenses stars du théâtre de l'époque. Donc, c'était une période que j'ai adorée. Et finalement, ça a pris le pas sur mes études. Et puis surtout, j'avais cette envie de faire de la musique et de monter vraiment des groupes.
Eh bien, vous l'avez fait. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 1er décembre 1977. A tout de suite sur Sud Radio avec Plastic Bertrand.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Plastic Bertrand. 1er décembre 1977, ça vous dit forcément quelque chose. C'est le jour de la sortie de cette chanson.
Ça plane beau.
Alors, il faut savoir, Plastic Bertrand, que tout a commencé quelques jours plus tôt dans une émission de Michel Drucker, Les Rendez-vous du dimanche.
Le 6 novembre 77, inoubliable pour moi, ma première télé, alors que ce n'était pas gagné du tout, parce que quand le disque est sorti, Saplan était la face B. La face A, c'était une chanson qui s'appelle Pogo Pogo, qui était inspirée d'une chanson de mon groupe Hubble Bubble. Et personne ne pensait à Saplan. Il y a une personne chez Vogue qui un jour a retourné le disque, on a dit, mais c'est complètement fou, passé à côté d'un truc énorme. Et Drucker a enchaîné tout de suite en disant, et Françoise Coquet déjà a dit, on veut ce bonhomme incroyable. Et première télé, 6 novembre 77, et le lendemain, c'était juste du délire, quoi.
Voilà, c'est Françoise Coquet qui est toujours la coproductrice de Michel Drucker qui vous a repéré. Et cette chanson, Pogo Pogo, c'était théoriquement la chanson de l'album ou du 45 tours.
Chaque fois que je sors en clap, y en a qui me regardent de travers. Je vous ferai leur petite cravate.
Alors, ça, on l'a complètement oublié, puisqu'il y a eu sa
place. Complètement oublié. Mais cette chanson-là est déjà inspirée d'un disque qui s'appelle Pogo Pogo sur l'album de Bubble Bubble.
Voilà. Alors, ça plane pour moi, en revanche, l'inspiration, c'est au départ un journaliste, punk, Bert Bertrand, ouais, qui est à l'origine de l'idée. Il est spécialiste de la microcosme en Belgique. Je crois que c'était le fils d'Yvan Delporte, scénariste de bande dessinée, qui a travaillé avec Franquin.
Tout à fait, c'est un mec absolument extraordinaire, qui était le roi du fanzine punk, et qui était complètement impliqué, qui était un peu le leader de ce mouvement en Belgique, et c'était un mec que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup. Et qui m'a suivi depuis le départ et qui lui-même avait joué dans un groupe. Et c'était vraiment cette ambiance punk indescriptible, vraiment inimaginable aujourd'hui, une espèce de folie furieuse. On jouait tous les jours, ça bougeait vraiment, ça groovait, c'était incroyable.
Donc au départ, lui, il va voir un copain à lui et il a une idée, c'est de faire une chanson un peu folle, un peu délirante autour du punk.
Bon, je pense qu'il avait une idée d'un single, il va voir un producteur qui s'appelle De Preck et ce producteur, bon, n'est pas du tout dans ce mouvement-là, il fait des chansons brésiliennes, oui. Et ça n'a rien à voir avec ce que moi je peux faire, mais il sent le bon coup venir en fait, il dit, moi ça tombait bien parce que moi j'étais... assez malheureux parce que mon bassiste de ce fameux groupe Hubble Bubble meurt en fait en rentrant dans un accident de voiture, en rentrant d'une répétition. Et pour un trio, se retrouver à deux, ça commence à être compliqué. Et donc je suis vraiment pas bien. Et là, il vient me trouver en disant, on pourrait faire un studio, on fait un single. Et puis je trouve le single tellement... moyen, et enfin, on parle surtout de Pogo Pogo, mais même Saplan, je trouve le single tellement moyen, mais moi, puisque j'étais un véritable punk à l'époque, je me dis, mais ça signe la fin de cette musique. Et puis il y a aussi l'arrivée de Malcolm McLaren, Malcolm McLaren qui était vraiment le marionnettiste des Sex Pistols. Et je me rends compte que ça signe vraiment la fin du punk. Et j'ai dit, ça, il faut le faire, quoi. Il faut arriver à faire quelque chose de différent et pas simplement un nouveau titre punk.
Voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, vous connaissez un peu le monde du disque, car vous avez travaillé dans les coulisses, dans une maison de disques, au départ à la promotion. Et ensuite, vous êtes fait des amis, Plastic Bertrand.
Oui, donc, la Maison Bleue, c'était une maison de disques complètement dingue. Et puis, ils m'ont donné pas mal de responsabilités. Mais surtout, le vrai truc, pourquoi j'ai signé comme représentant dans une maison de disques, c'est que j'avais une camionnette. Et pour répéter avec mon groupe Hubble Bubble, j'avais besoin de transporter le matos, j'avais besoin de cette camionnette, quoi. Et donc là, c'était vraiment parfait pour moi de rentrer dans le milieu. Comme ça, ça m'arrangeait vachement bien.
Alors, on dit aussi que cette chanson, ça plane pour moi, c'est inspiré d'une autre chanson de Michel Delpech, Tu me fais planer.
Tu me fais planer.
Il y a une ressemblance.
Ah ouais, c'est clair. De toute façon, Michel Delpech, c'est quelqu'un que j'adorais. J'ai tourné avec lui d'ailleurs. C'est assez marrant. On a fait une tournée en co-vedette. Une fois lui, il terminait un soir, moi l'autre soir. Et on s'est très bien entendu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, cette chanson était fantastique. Ça plane pour moi, lui doit vraiment quelque chose.
Voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il était comme vous, un élève très moyen à l'école, Michel Delpech. Il écrivait des chansons pendant ses dissertations, à tel point que le professeur lui a dit « Écoute, va dans une maison de disques, tu seras mieux qu'ici. » Et ça a marché.
Mais c'est bien, les profs comme ça, ils ont le flair, quoi. C'est bien.
Alors, au départ, cette chanson, ça plane pour moi, c'est Berthe Bertrand qui doit l'enregistrer.
Au départ, oui, parce que c'est lui qui t'a mis avec ce producteur. Et puis, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne fonctionne pas du tout. Il cherche vraiment quelqu'un de crédible. Et moi, je suis crédible parce que je suis batteur et chanteur d'un groupe qui fait des concerts. Et ils arrivent au bon moment. Ils me cueillent, en fait, au moment où je suis tout seul, où je suis très malheureux parce que j'ai perdu des musiciens. Je suis prêt, je suis mûr pour faire un truc énorme. Et ils le sentent, ça. Moi, je ne me rends pas compte, mais ils le sentent.
Alors, en plus, Plastique Bertrand, bon, Bertrand, le pseudo, on comprend que c'est Berthe Bertrand. Plastique, c'est parce que je crois qu'à l'époque, vous vous habilliez avec des tenues en plastique.
Ouais, on est en plein trip punk, et c'est vrai qu'il y avait déjà ce côté chez les punks, ça, c'est très, très... Personne ne le souligne, mais c'est très important. Il y avait déjà le fait... On parlait de surconsommation, et le fait de dire Plastique Bertrand, c'est dire... Attention, le plastique, arrêtez de surconsommer, arrêtez de polluer. Il y avait déjà ce truc-là chez les punks, en disant, c'est pas la peine d'acheter. Non, on achète des choses peu chères et on les emploie au maximum. Il y avait déjà cet esprit chez les punks. Et ce truc plastique, comme je m'habillais, évidemment, j'étais batteur, j'avais des sacs en poubelle, je coupais les coins, je passais les mains, je jouais comme ça, tous mes potes m'appelaient plastique, évidemment.
Voilà, et il faut savoir aujourd'hui qu'on fabrique des vêtements à partir de plastique recyclé, des imperméables, et pour les femmes, des vêtements à partir de bouteilles en plastique recyclé.
Tout à fait, voilà. Oui, tout à fait, mais je pense qu'on en trouve partout, hein, partout dans tous les textiles aujourd'hui, le plastique est présent. Mais vraiment, ça c'est la parenthèse sur le plastique, c'est quand même une matière absolument incroyable. Si on pouvait simplement s'abstenir d'en refaire et d'aller pomper des nappes de pétrole, mais simplement de réutiliser, de recycler, ce serait fantastique.
Alors, le succès de la chanson est immense. Vous commencez à donner des concerts et là, vous mettez les petits plats dans les grands. C'est-à-dire que vous achetez un matériel ultra technologique pour l'époque, avec des lumières, des nuages qui s'envolent, des ballons qui explosent, Plastique Bertrand.
Oui, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai toujours été, bon, c'est le côté Claude François dont on parlait avant, j'avais envie de faire un vrai spectacle. Ça veut dire que je m'adresse les gens qui ont fait la pochette de Pink Floyd avec le cochon volant. Ben, je vais les voir, ils sont hollandais, je vais les voir en disant « construisez-moi un spectacle ». Tout ça avec mes sous à moi, hein, parce que du producteur, je n'ai pas une multinationale derrière moi, c'est mes sous à moi, et plutôt que de les engranger et m'acheter des Rolls-Royce, je réinvestis tout dans le spectacle. Et j'arrive à tourner avec un spectacle complètement délirant, avec des décors, des nuages qui se gonflent, des projections, enfin, un truc international, alors que je suis vraiment un petit artiste produit par un petit label.
Alors, vous chantez sur scène et il y a cette fameuse polémique qui dure depuis 40 ans. Je voudrais qu'on en lise un mot, on est obligé.
Oui,
sur
évidemment.
Le disque, est-ce que c'est vous qui chantez
mais bien,
ou non
mais bien sûr, c'est moi qui chante. Le producteur en question a juste fait des voix derrière moi, comme on le fait avec des choristes. Et puis, il a remis ses comme il voulait. Mais ça a été réglé depuis très très longtemps parce qu'il y a un procès. Il y a deux procès qui m'ont donné raison. Je suis bien l'interprète de la chanson. Mais ça vient uniquement de ça, en fait. Quand j'ai quitté ce producteur, il s'est vengé en disant « Ouais, ça se passera pas comme ça. » Il était vraiment fou, furieux. Et ben voilà, ça fait 40 ans que je suis sur scène. Mais quelque part, ça a ajouté à ma légende et ça m'est complètement égal. J'ai rien à prouver à ce niveau-là.
Non, et puis vous avez prouvé suffisamment de choses avec ces spectacles où il fallait vous maquiller. D'ailleurs, il y avait 2 heures de maquillage à chaque fois.
Oui, parce que moi, je suis un fan de Bowie, évidemment. Et moi j'ai toujours voulu faire des spectacles habillés, sonorisés, avec des lumières incroyables, et surtout inventer des personnages. Mon rêve, en fait, après s'être appelé Plastique Bertrand, c'est d'inventer un deuxième personnage, et un troisième, un peu comme Bowie avec Alan Vincennes, Ziggy Stardust. Ah ben, ça n'a pas été possible, parce que ça, plein pour moi, m'a écrasé complètement. Donc, je ne pouvais plus changer de nom. Mais l'idée, sur scène, c'était vraiment d'apporter une dimension, chaque fois, d'inventer des personnages, de les maquiller, de le coiffer, de l'habiller.
Eh ben oui, vous avez fait d'autres choses, plus importantes encore sur le plan international. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 9 mai 1987. À tout de suite sur Sud Radio, avec Plastique Bertrand.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Plastique Bertrand. Il y a ce nouvel album, le 10e, l'expérience humaine, dont on va parler tout à l'heure. Mais je reviens à une date, le 9 mai 1987. des millions de téléspectateurs écoutent cette chanson.
Ah oui.
Alors, vous êtes sélectionné pour le Grand Prix Eurovision de la chanson, mais ce qui est paradoxal, c'est que ce Grand Prix de Eurovision se déroule à Bruxelles, et oui, vous représentez le Luxembourg.
Luxembourg, exactement. Mais c'est un éditeur luxembourgeois qui est venu me voir avec une idée de, l'idée de me faire présenter l'Eurovision, enfin de présenter Luxembourg à l'Eurovision, et j'ai pas hésité une demi-seconde. Je me souviens quand j'étais avec mes parents, devant la télévision en noir et blanc, dans les années 50, de voir l'Eurovision un jour, et je l'ai dit à mes parents, j'y serai, quoi. C'était un rêve pour moi. Donc, j'ai pas hésité, j'ai pas fait un calcul de carrière ou quoi que ce soit, pas du tout. J'ai dit, je le fais, et simplement, j'ai réalisé un rêve de gosse, quoi. Et puis, je me suis vraiment amusé à le faire.
Oui, et alors il faut savoir que cette année-là, le budget était tellement élevé qu'une loi a été votée à Bruxelles permettant le recours à la publicité pour financer les chaînes publiques belges. Et c'est la première fois que des sponsors apparaissaient à l'écran.
Tout à fait. C'était un espèce de barnum incroyable, complètement démesuré par rapport à la Belgique. Et moi, je me suis baladé là-dedans avec un plaisir vraiment énorme. Parce que je voulais pas arriver premier. Je suis arrivé avant-dernier.
Oui, mais pas dernier.
Pas dernier. Et c'est Malte qui m'a sauvé. Et d'ailleurs, je suis devenu une immense star à Malte.
Oui, non, ils ont eu zéro point.
Ce qui est génial, c'est que je me suis vraiment amusé. Et que la veille, pendant les répétitions, il y a les bookmakers, les célèbres bookmakers, qui disent « Ah, lui, on y croit à mort, il est 1 contre 1, 80 contre 1. » Eh bien, je suis arrivé dans les 3 premiers. Et puis, c'est pas ce qui s'est passé. Bon, apparemment, le public n'a pas suivi. Mais la veille, j'étais dans le top 3 des bookmakers.
Alors, ça a été gagné par un Irlandais, Johnny Logan, qui avait déjà remporté la victoire. C'est la deuxième fois.
Et il a remporté encore une fois une dernière, je crois. Trois fois en tout, je crois.
Oui, on l'a appelé Monsieur Eurovision pour ça.
Tout à fait, ouais.
Il a fait que ça dans sa vie, finalement. Alors, il faut savoir qu'en 87, votre renommée, et on ne le sait pas assez, Plastique Bertrand, est mondiale. Vous avez été numéro 1 en France, numéro 2 aux Pays-Bas et en Australie, numéro 6 en Allemagne, numéro 8 en Angleterre, et surtout, vous avez la 47e place dans les meilleures ventes des disques aux États-Unis.
Ça, c'est complètement incroyable, parce que les États-Unis, pour un artiste francophone, ça tient du miracle. Le miracle, c'est qu'en 1959, il y a la première francophone, belge aussi, qui fait un carton aux États-Unis qui s'appelle Sœur Sourire.
Oui.
On est en 59.
Oui.
20 ans plus tard, il y a un petit belge aussi, francophone, petit belge aussi, qui s'appelle Plastique Bertrand, et qui casse les charts américains. On est donc en 79. Et 30 ans, parce que l'histoire n'est pas finie, et 30 ans plus tard, il y a un énorme artiste, bien belge aussi, qui s'appelle Stromae, qui commence à vraiment être important aux États-Unis. Quel incroyable petit pays qui fabrique des gens comme ça, quoi.
Mais comment la chanson est-elle arrivée aux États-Unis, Plastique Bertrand ?
Alors ça, c'est une rencontre incroyable en 78 avec un producteur qui s'appelle Seymour Stein. C'était le numéro 2 de Warner Monde, et c'était surtout le propriétaire d'un label qui s'appelle Sire Records. Excusez du peu, le label avec Pretenders, avec Blondie, avec les Ramones. Et je le rencontre au Midem en 78, et je sais pas, on a un flash, et il me dit « Dans un an, tu seras à New York, et tu seras numéro 1. » J'ai dit « Oui, c'est ça, mais comment on se parle comme ça dans le showbiz, quoi ?» Ah ben, en 79, j'étais à New York, et la première chose qui m'a fait comme cadeau, quand je suis arrivé à New York, c'est la première fois que j'y allais, il m'a fait le tour de Times Square, et là, il y avait un journal lumineux qui disait « New York, the Big Apple welcomes Mr. Plastique Bertrand ». T'as 20 ans, tu vois ça, tu dis « mais je suis le roi du monde ».
Voilà, exactement. Alors, cette chanson, elle a été reprise par d'innombrables musiciens et chanteurs. Même André Verschuren a fait certaines
pour moi. Oui, mais oui. Il y a des versions incroyables.
Mais la version la plus incroyable, et je crois que le groupe l'a jouée sur les marches du palais du Festival de Cannes en 2007, c'est celle de YouTube. C'est celle de
U2.
U2, oui. Alors ça, c'est né comment? C'est YouTube qui interprète.
Mais ça, c'est complètement fou. C'est partie de la magie de cette chanson. Régulièrement, il y a des groupes américains. Tous les plus grands groupes américains l'ont joué. Et de temps en temps, des groupes comme YouTube et aussi Metallica. Et Metallica, c'est incroyable. Il y a 2 ans, c'est pratiquement le jour de mon anniversaire, sont en tournée européenne et jouent tous les soirs et jouent Ça plane pour moi. Mais ça, c'est juste parce que cette chanson est vraiment un tube pas seulement en France, mais ailleurs. Quoi.
Mais comment l'expliquer, justement, sur cette chanson ?
Je pense que c'est simplement la magie du son des mots. Ce n'est pas les mots qui sont importants. Je crois que la chanson a été construite comme... je sais pas, c'est écrit en français, mais comme une chanson américaine où... Wambam, moi ça splash, tout ça vient, c'est pas français, c'est du français, mais l'histoire est pas importante, c'est le son des mots qui est importante et ça les touche terriblement. Et puis aussi rythmiquement, c'est un truc très up tempo qui met de l'ambiance, donc les gens sont contents de l'apprendre. Mais moi, c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir une très bonne image avec cette chanson dans le monde entier, de pouvoir continuer à travailler là-bas, parce qu'elle reste indémodable là-bas.
Et même en Asie, il y a des campagnes publicitaires pour Coca-Cola avec cette chanson.
Ouais, c'est complètement fou, Coca-Cola. Et alors, le truc, évidemment, qui est génial quand on parle de Coca en Asie, comme c'était Coca en Asie, c'est Pepsi qui l'a repris pour l'Amérique du Sud deux ans plus tard. Donc cette chanson est incroyable, parce que il y a aussi, chaque fois qu'elle est reprise dans des films, je parle de films comme Le Loup de Wall Street, de Scorsese, des films avec, qui s'appellent les Three Kings, là c'est Stop ou Encore, mais mes chansons sont reprises dans des gros blockbusters américains, et moi c'est génial, c'est comme si on faisait de la pub gratuitement, et ça me permet de retourner chaque fois dans ces territoires et continuer à travailler.
Oui, je crois qu'en Australie, la chanson a été diffusée sur écran géant, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque.
Oui, c'est ça, c'est une chanson qui a connu le début des clips, en fait, les premiers trucs et façon de vendre la musique différemment. Et puis, c'est une chanson qui a marqué les gens. Et je continue à travailler. De temps en temps, je retourne en Australie faire des concerts. C'est hallucinant.
Alors, il y a eu d'autres chansons avec un album qui s'appelle Suite Diagonale, où il y avait les joueurs de Chic Chic. Cette chanson, Plastique Bertrand, c'est aussi une rencontre avec un romancier disparu et qu'on aime beaucoup, c'est Jacques Lanzmann.
Ah, c'est incroyable. Jacques Lanzmann était très, 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 très important. C'est pas lui qui a écrit cette chanson-là. Ça, c'est Pipou, c'est lui qui a écrit Sapin pour moi. Mais dans cet album, Sud Diagonal, il y a une série de chansons écrites par Jacques Lanzmann. Jacques, je l'ai rencontré quand on est en 81, et je suis en tournée dans les pays de l'Est, et il me suit dans cette tournée, et il fait un reportage pour le magazine VSD. Et on passe 3 semaines dans les pays de l'Est, et on devient très, très, très amis. On rentre à Paris. Alors, petite anecdote, quand même, ça c'est marrant, parce qu'on rentre à Paris après cette tournée, j'arrive, en 81, et j'ai un très très gros concert. Je rentre à Paris parce que j'ai un très 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 gros concert qui est programmé à Pantin. Ce qu'on me dit pas, ce que mon agent de l'époque me dit pas, c'est que c'est le jour des élections et que je chante en fait pour Giscard.
D'accord.
Et ça, je le découvre en arrivant à Pantin. Mes musiciens, ils s'en foutent complètement, ils sont là. Enfin, tout mon staff est déjà là. Moi, j'arrive en hélicoptère de Roissy jusqu'à Pantin. Et là, je découvre. Mais oui, putain, je suis en tournée depuis très très longtemps. Mais c'est vrai, c'est les élections. Et je chante à Pantin pour Giscard. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue, mais c'était pas mon idée. Moi, c'est celle de mon producteur.
Et Lanzmann est un peu commencé comme vous par hasard. Oui. C'est-à-dire qu'un jour, il déjeune avec Dutronc et il lui dit c'est facile d'écrire une chanson et Dutronc le met au défi. Ouais. Résultat, il a fait Et moi, et moi, et moi. C'était le point de
fabuleux.
Départ.
Mais c'est extraordinaire. Quel auteur fabuleux. Je suis très, très fier qu'il ait écrit pour tous les tubes pour Dutronc. Magnifique. Et quel bonheur pour moi d'avoir plusieurs chansons écrites par Jacques Lanzmann et dont une qui a été très, très importante pour moi, qui est Stop ou Encore, qui a été un gros tube aux États-Unis aussi. Et cette chanson, à ce truc de magie complète, elle m'a permis de rencontrer David Bowie. Et ça, c'est quand même très important de ma vie, parce que c'est mon dieu absolu, quoi. Et ça s'est passé un peu plus tard, en 82-83. Je suis aux États-Unis et Seymour Stein, mon fameux producteur, décide de faire remixer Stop ou Encore par un très grand DJ. Et je me retrouve avec une sortie de Stop ou Encore, mixée par Big DJ, et en face B, Cat People de David Bowie. Sur le même disque, et on se retrouve à faire de la promo ensemble. Et là, je rencontre David Bowie, et pour moi, ça, c'est vraiment c'est le cadeau de la vie, c'est le plus beau jour de ma vie, quoi.
Stop ou Encore, on en écoute un extrait, Plastique Bertrand.
J'ai 15 ans, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 15 ans, où j'en suis? À la fin ou au début?
Ben vous en êtes au début, justement.
Ouais.
Alors, ce qu'on sait peu aussi, Plastique Bertrand, c'est que vous avez composé des musiques de films, dont celle de La Surprise de César, d'Astérix. Ah, mais avec Vladimir Kosma.
Mais c'est incroyable, la vie est trop belle pour moi. Avoir, David, avoir vraiment la chance de d'écrire avec Monsieur Kosma, avec Vladimir Kosma. Il m'appelle un jour en disant j'ai envie de travailler avec vous. On se connaît pas, je le rencontre et on a très très belle rencontre. On décide de travailler ensemble et on écrit cette musique de ce film. Je me dis mais la vie est trop belle, là, vraiment écrire avec Monsieur Kosma. Et c'était juste du bonheur. Il y a plein de choses comme ça dans ma vie qui m'arrivent. Merci, merci, merci.
Le premier Astérix au cinéma, Goscinny et Uderzo l'ont appris en découvrant le film, car à l'époque, on ne posait pas de problème de droit. C'est Raymond Leblanc, qui avait Belle Vision et qui éditait Le Lombard, qui l'a réalisé et qui l'a montré à Goscinny et Uderzo. Et après, ils ont repris tout en main, et ça s'est fait pratiquement à leur insu, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui.
Ah non, impossible, impossible.
Alors, il y a aussi le Plastic Bertrand, présentateur, car vous avez fait beaucoup d'émissions de télévision comme présentateur, en France, en Belgique, et même en Italie, je crois.
Oui, ouais, c'est ça. En France, j'en ai fait quelques-unes. Hein. Je pense déjà sur TF1, Jackpot, et puis j'ai présenté Destination Nouvelle sur France 2, et puis j'ai encore fait des trucs sur France 3. Enfin, j'ai fait pas mal de télé. En Belgique, il y a une émission très importante où j'étais présentateur et producteur qui s'appelait Super Cool, qui était très importante, parce que là, je recevais les plus grands groupes rock du monde, et j'étais producteur. Je me suis vraiment battu pour que l'émission soit fantastique. Et puis, ma parenthèse italienne, et ça, c'est marrant, parce qu'on parlait tout à l'heure de 81. Quelque part, j'ai dû un peu m'exiler entre 81 et 83. Je suis parti en Italie. Ça tombait bien parce que j'étais très connu en Italie et on m'a proposé d'animer une émission de télé qui s'appelle sur la Rai 2, qui s'appelle Due per tutti. Et là, je suis en dehors de ça. Je faisais des disques pour le marché italien, mais surtout, je faisais des romans photos. Quoi. Oui. Et on ne se rend pas compte qu'on en vendait 1 million par semaine, que c'était un truc juste énorme. Et c'est très drôle le chemin pour comment je suis arrivé là à faire des romans photos. C'est Monique Pivot, qui était rédactrice en chef de Nous Deux, en France, qui m'a branché sur l'éditeur italien, et je suis devenu le roi des romans photos en Italie pendant 2 ans, plus mes émissions de télé, plus les disques que je faisais là-bas. J'ai vécu 2 ans à Milan, c'était formidable.
Oui, et le roman photo d'ailleurs vient d'Italie, puisque c'est Cino Del Duca qui était le premier après la guerre, qui a instauré les premiers romans photos en Italie, avant de les apporter en France avec des vedettes, et ça faisait un tabac à l'époque.
Mais on en vendait 1 million par semaine, c'est le rêve de tout éditeur aujourd'hui.
Oui, et finalement, ça vous donnait une notoriété extraordinaire. En plus.
Incroyable. Donc, du coup, émission de télé. Donc, du coup, j'ai habité Milan et j'ai adoré ça.
Oui, et finalement, vous conservez encore des contacts en Italie ?
Oui, je retourne de temps en temps faire des concerts, des télés. Oui, ça continue.
Voilà, et ben, ça continue aussi dans
le livre. C'est vrai que c'est qu'en Italie, en plus, j'ai fait 2 fois San Remo.
Oui, le festival de San Remo.
Et c'était quand même... C'est pire que l'Eurovision, là. C'est vraiment une religion, San Remo, en Italie. Et 2 fois, j'étais pas dans le concours, j'étais vraiment comme grande ospiti, comme ils disent là-bas. Et dès qu'on fait San Remo, on est reparti pour 1 an au moins là-bas. Quoi.
Mais vous êtes reparti avec un nouvel album dont on parle dans quelques instants à travers une date, le 23 octobre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Plastic Bertrand.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Plastic Bertrand. 23 octobre 2020, Plastic Bertrand, le retour avec un 10e album. Je crois que c'est le premier depuis 10 ou 11 ans d'ailleurs.
Ouais, 10 ans, ouais.
10 ans.
10 ans, ouais.
Et ça s'appelle L'expérience humaine. Et c'est un des titres de l'album qu'on écoute.
J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine. Et je dirais chez moi que ça en vaut la peine.
Alors, ce qui en vaut la peine, c'est le sujet de cette chanson. C'est un extraterrestre, Plastic Bertrand.
Oui, c'est ça, mais c'est un peu moins dans la vie. Hein. Je pense que malgré...
Non, vous êtes un terrestre extra.
Ça, c'est gentil, Jacques. Je note la formule, j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment... C'est incroyable. C'est vrai que c'est un album, finalement... Sous des airs d'extraterrestres, en fait, c'était l'album le plus humain que j'ai fait. Parce qu'en fait, je parle des gens, je parle des hommes. Mais comme je suis quelqu'un, et quand on me connaît un peu, je suis quelqu'un plutôt timide et assez pudique, j'avais besoin d'un avatar qui me ressemble et qui soit moi et pas moi à la fois, pour dire aux gens dans les yeux, je vous aime. Et je me suis servi de cet environnement un peu extraterrestre, qui m'a toujours séduit, évidemment, à travers des chansons comme « Tout petit, la planète » ou un film... je me souviens quand j'étais môme, qui s'appelle « Quand le jour où la Terre s'arrêta », j'ai toujours été... C'est quelque chose qui fait partie de moi complètement. Mais c'est peut-être l'album le plus humain, où je dis des choses, et surtout où je montre pour la première fois, et je rends hommage à tous les musiciens qui ont traversé ma vie, et je... clairement, j'assume ces artistes en disant « ils sont ma vie ». Et c'est grâce à eux que je suis heureux.
Voilà, et vous êtes heureux d'ailleurs cet album. Alors, l'extraterrestre gentil que vous êtes, finalement, le premier extraterrestre gentil, ça a été E.T. de Spielberg.
Oh,
parce qu'avant, ils étaient tous méchants. Et ça a complètement changé la donne.
Oui, sauf dans le film Le jour où la Terre s'arrêta, où c'est plutôt les humains qui sont plutôt belliqueux. Oui. Moi, je les ai toujours vus comme ça. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de gens qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment... Je ne parle pas seulement des extraterrestres, je parle d'une façon générale.
Alors, c'est un morceau à la fois mélancolique et futuriste, parce que le futur vous passionne, Plastic Bertrand.
Oui, moi j'aime que ça. Je suis pas du tout nostalgique. Je suis mélancolique, mélancolique en disant que cette espèce de bonheur triste, enfin de tristesse qu'on aime assurer quand on regarde un film, cette petite larme qui coule mais qui nous rend heureux en même temps. Cette chanson, c'est ça, hein, l'expérience humaine, cette espèce de bonheur, de bien-être, même si un tout petit peu de tristesse. Et ça, c'est un sentiment que j'ai jamais vraiment sur lequel j'ai jamais travaillé dans une chanson. Et dans cet album, il y a plein de choses comme ça. C'est pas un album pour faire un album, c'est chaque fois que j'essaie dans chaque chanson de trouver ce point de vue là qui n'est jamais qui ne m'a jamais
abandonné.
Voilà, abandonné, tout à fait.
Alors il y a une autre chanson de cet album qui s'appelle L'autre Terre.
Quelque part
Donc là, on est vraiment dans l'extraterrestre. Au départ, je crois que cette chanson, cet album, vous y avez pensé il y a 10 ans, que ça devait être une comédie musicale.
Ça devait être une comédie musicale, exactement, que j'ai commencé à écrire avec Alec Mansion, qu'on connaît pour C'est l'amour, mais qui est en fait un très, très, très grand musicien, un mélodiste incroyable. Et on avait l'idée, en 2010-2011, de créer une comédie musicale qui se serait appelée I'll Be Back Again, Je reviendrai. Et c'est d'ailleurs la version anglaise de l'expérience humaine. Et puis, ça ne s'est pas fait, évidemment. On a donné la chanson une première fois à Desireless, qui en a fait une version. Et puis, évidemment, j'ai repris complètement mes droits et l'envie de faire cette chanson. On a poursuivi ce qu'on avait commencé il y a 10 ans avec Alec Mansion. Et on a écrit l'album dans cette même veine.
Voilà. Et c'est pas un album de commande, parce que tous les 4 ans, il y avait un album. Là, c'est tout à fait différent.
Ah non, c'est vraiment... l'album que j'avais sorti avant était très important pour moi, Dandy Bandy. C'est un album que j'ai fait vraiment, un album roots que j'ai fait avec mes musiciens américains, parce que j'ai tourné pendant 2 ans sur cet album au Canada et aux États-Unis. Et je voulais... J'avais pas d'envie de refaire un album. Je voulais faire autre chose. C'est pour ça qu'on a commencé sur l'idée de la comédie musicale. Mais surtout, je voulais avoir vraiment quelque chose à communiquer aux gens, à partager. Et il a fallu du temps pour que ça se fasse. Ouais.
Oui, et ces tournées internationales, on en parle peu, mais je crois qu'un jour au Québec, vous avez chanté devant 15 000 personnes, Plastic Bertrand.
Oui, mais j'ai fait des trucs. Pour moi, au Québec, c'est assez régulier. Mais un jour, le plus grand concert que j'ai fait au Québec, c'est sur les plaines d'Abraham, où il y avait carrément 100 000 personnes.
Oui.
Quoi. 100 000 personnes, c'est juste délirant, quoi.
Il y a un restaurant tout près qui tourne, dernier étage, et on voit les plaines d'Abraham tournant, déjeunant.
Et j'ai chanté là, et ça, c'est quand même des moments incroyables dans une vie.
Oui. Et les Québécois, en plus, adorent les Français et les Anglais.
Alors, les Québécois, ils ont... Moi, je me sens très, très bien chez eux. J'aime leur façon d'aborder la vie, leur gentillesse. Belges et Québécois, on se ressemble assez. Hein. Je veux dire, il faut dire ce qui est. Et puis, ils ont quand même une oreille très particulière. Moi, je me souviens quand, dans le monde entier, Sa plane pour moi était un tube. Au Québec, le tube, c'était pas Sa plane, c'était Stop ou encore. Ça veut dire que quand je passerai la frontière, les douaniers me faisaient « Stop ou encore ?» Et ils ne faisaient pas du tout ça à plein pour moi. Ça veut dire qu'ils ont une oreille particulière et j'aime ça. Moi, j'aime que la musique soit différente. J'aime que la musique ne soit pas une chanson qu'on vend beaucoup, mais soit plusieurs chansons qu'on en vend un peu moins, c'est beaucoup mieux.
Alors, cet album est différent, l'expérience humaine, et surtout, bon, vous l'avez fait il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il est dans l'air du temps, parce qu'on s'interroge plus que jamais sur l'avenir de l'humanité, Plastic Bertrand.
Complètement, le plus intéressant, c'est ce qui va arriver. Et c'est pour cette espèce de rétro-futurisme, parce que ça va tellement, tellement, tellement vite. Ce qu'on dit aujourd'hui, demain matin, ça peut être complètement, complètement obsolète. Quand je vois qu'il y a... Il y a un an, on ne parlait pas du Covid. Et là, un an plus tard, on parle d'un vaccin pour ce Covid. on est complètement dépassé par ce futur. C'est une espèce de roue complètement dingue qui tourne comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien me parler de cette espèce de rétrofuturisme.
Oui, et justement, vous vous intéressez à ce futur. Vous êtes inquiet, vous êtes optimiste?
Moi, je suis optimiste.
Toujours?
Je suis optimiste et je le dis dans l'album, moi, je crois en l'homme. Quoi qu'il arrive, je crois vraiment que dans chaque être humain, il y a une envie de créer quelque chose, de créer une famille, de donner de l'amour à ses enfants, de leur apprendre des choses, de les éduquer. Je crois que n'importe quel être humain au monde pense aux mêmes choses. On a le même ADN, quoi. On est construit comme ça.
Alors, c'est un album que j'appellerais Made in Belgique, parce que vous l'avez fait chez vous à Bruxelles, et vous avez travaillé avec quelqu'un, et vous avez attendu que cette personne soit libre, c'est Dan Laxman.
Dan Laxman, c'est un immense musicien, on l'appelle le pape de la musique électro, parce qu'il est d'abord le musicien qui a créé le groupe Telex, avec Marc Moulin et Michel Moore. C'est un groupe absolument référence pour toute la musique électronique. Aujourd'hui, on vient du monde entier pour travailler avec lui, pour voir comment il fonctionne avec ses machines. Il a des machines incroyables, il a travaillé avec Kraftwerk, il a travaillé avec vraiment les plus grands musiciens électro. Et c'était, depuis le départ, c'était clair pour moi que je voulais travailler avec lui. Pas d'album sans lui.
Voilà. Et résultat, un album avec une chanson qui pourrait d'ailleurs le surnom de Dan Laxman, qui est Mr. Do It.
Oui, c'est lui qui va tout changer.
Un rêve éveillé, c'est tout ce que j'ai. Pas de mission spéciale, pas d'homme idéal.
Regardez-le, parlez, marchez.
Voilà, ça aussi, c'est une histoire, finalement, ça pourrait être un spectacle, cet album.
Ah, c'est clair que l'album est conçu, quand on voit la pochette est très très importante parce qu'elle fait partie complètement de cet album, de ce concept. C'est clair que quand on écrit et construit l'album, on le voyait sur scène, ça fonctionne ensemble.
Et la pochette, il y a un clin d'œil à Stanley Kubrick. Je
crois que complètement. On retrouve toutes mes idoles musicalement, mais aussi graphiquement. Alors, pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que c'est mon fils qui a fait cette pochette.
Ouais.
Et ça, c'est la première fois que je travaille avec lui. Je rassure tout le monde. Mon fils, il a pas 7 ans. Il a pas sorti ses crayons de couleur.
Hein. Non, non.
Il a 40 ans, il est designer.
Oui.
Mais quel bonheur de travailler avec ses enfants et d'être sur la même longueur d'onde. Il m'a apporté énormément. Et on a conçu avec lui et aussi avec Dan Laxman et Alec Mention ce spectacle sur scène. Il existe dans nos têtes. Alors maintenant, la difficulté, c'est de mettre ça sur scène.
Alors, surtout en ce moment.
Alors, on ne sait pas comment ça se passer. Mais en tout cas, c'est clair que pour moi, c'est un album concept.
Alors, vos enfants, justement, vous avez été un père très strict sur l'école, mais un peu fantasque. Vous pouvez les emmener dans le bois la nuit, voir des animaux sauvages. Plastique Bertrand, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Mais j'ai même pas honte. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Mais moi, j'étais capable de les réveiller à 4h du mat et dire oh, venez, on va voir les biches dehors dans le bois de la Campe.
Ouais.
C'est un bois près de Bruxelles. Et ben, mais j'étais pas très étonné parce que bon, je suis un père comme ça, quoi. Mais je suis un père, je suis une nature. Mais par contre, j'étais pas un père laxiste. Hein. J'étais assez trash avec eux en disant il faut que vous bossiez, il faut que je sois fier de vous, il faut que l'école soit important. Et en dehors de ça, je pouvais faire des conneries et surtout des conneries avec eux.
Oui, ça, c'est votre côté grand enfant. Remarquez, Francis Blanche a fait pire. Lui, ce n'était pas du tout pour ses enfants. Un jour, sa femme, Arlette Trébora, l'enfant tombe par terre. Elle veut le relever. Il fait non, laisse-le se relever tout seul. Il y avait un an.
Mais trouvez ça normal. Moi, c'est drôle, j'adore ça.
Alors, cet album, c'est aussi un album électropop. Ça, c'est aussi une chose importante pour vous, Slessig Bertrand.
Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai traversé le long de mes 10 albums, j'ai des styles complètement différents, mais depuis très très longtemps, cette musique électro me touche. Et si on regarde un album qui est sorti en 79, le deuxième album, je pense, il y a déjà Tout Petit, La Planète. On est déjà dans le tout début de l'électro. Et je suis très très heureux aujourd'hui parce que là, les DJ, des DJ comme Simon Le Saint, qui est le bras droit de Stromae, remixent Tout Petit, La Planète. Et cette chanson est considérée vraiment comme une des bases de la musique électro. Donc là, je suis pas peu fier de ça.
Alors dans cet album, il y a une chanson aussi, c'est Petit Prince.
Il est arrivé, comme parachuté, une nuit étoilée.
Et là, bien sûr, on pense au Petit Prince de Saint-Exupéry.
Tout à fait, c'est vraiment... tout se tient dans une vie. Cette chanson, elle m'est venue évidemment tout de suite, j'y ai pensé, parce que c'était la première fois que j'étais sur scène, c'était à l'école, j'étais en cinquième primaire, j'étais dans un cours de diction chez Monsieur De Groot, qui était professeur de diction, et on devait réciter. Et ma première récitation, c'était l'extrait avec la rose et le renard dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et je retrouve 40 ans plus tard à chanter le Petit Prince, quoi. Et ça, c'est quand même magique. Moi, les vies se tiennent, ça. Vraiment, elles sont pleines de surprises. Mais il y a toujours vraiment, il y a toujours un truc qui nous ramène, le tout, c'est de transcender ça, mais qui nous ramène au passé. Mais c'est beau parce que ça veut dire que c'est un vrai album avec mes vraies sensations.
Oui, et c'est pas un album comme on dirait de Pantin Rigolard. Ce sont vos sentiments.
C'est vraiment. J'ai pas fait du boom boom pour faire des boom boom, quoi. Mmh. Non, il y a des chansons comme ça. Et même au niveau de la production aussi, on a entendu des choses où, bien sûr, on emploie des effets parce qu'on parle d'électro, où il y a aussi des voix à la Daft Punk, etc. Une chanson comme Petit Prince, c'est des voix complètement flat, des voix naturelles. Et c'était moi, je voulais absolument ouvrir le personnage et pas le fermer, quoi. Et moi, c'est un bonheur de chanter à gorge déployée et pas toujours dans des effets. Mais les gens comprennent pas toujours. Mais moi, j'aime bien quand ça se côtoie, quoi. Je ne vais pas faire un album uniquement « Ah, là, je suis sérieux et là, je déconne ». Non, là, j'ai envie qu'on voyage là-dedans.
C'est-à-dire qu'à la fois robotisé et humain.
Ouais, c'est
voilà.
Ça.
Et ben, exemple, une chanson, 51.
Be the one at 51. Be the one at 51.
Et en anglais, là, parce que l'album va sortir dans le monde entier.
Ouais, ça sort partout, et puis là, c'était obligatoirement en anglais, puisqu'on parle de 51, on parle de la zone 51, la fameuse zone dans le désert du Nevada, où on pense que Roosevelt est enterré, ou en tout cas est tenu prisonnier par l'armée américaine, quoi. Et donc, cette chanson est fantasme en disant « on va aller vraiment libérer Roosevelt, quoi. Enfin, » c'est un vrai bonheur, mais c'est peut-être qu'en anglais, c'est une histoire américaine, quoi.
Voilà, l'Amérique et les autres pays où vous allez retourner, bien sûr, Plastic Bertrand.
Oui, c'est grâce à peut-être la version anglaise, parce que oui, le français, c'est très compliqué, hein, oui. Sur l'international, c'est vraiment très compliqué. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une version anglaise de cet album. Mais quand je pars par chanter là-bas, je chante pas tout en français, pas tout en anglais. Je mélange et ça fonctionne bien. Il y a toujours cet amour du français, mais dans la réalité, arriver sur un marché pour un artiste francophone, c'est très compliqué.
En tout cas, vous arrivez à faire ce que vous voulez, ce que vous aimez et ce que le public aime. C'est le cas de l'expérience humaine. Merci Plastic Bertrand de l'avoir enregistré. Puis vous nous avez manqué, j'espère que vous reviendrez bientôt.
Merci Jacques, merci pour tout.
Merci à vous. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.